Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Allez, aujourd'hui, podcast un petit peu spécial parce qu'on n'est pas deux, on est trois à être enregistrés aujourd'hui. On est le 19 janvier, chez moi il fait très froid, mais chez Thomas il pleut et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour ce défi, ce beau projet dont il prépare pour cette année 2024. Thomas, je vais commencer par toi, même si tu es déjà passé sur le podcast, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ou te représenter pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Eh ben, c'est facile, je m'appelle Thomas, je suis jurassien, et je le revendique. Du breton le revendique, moi je revendique aussi que je suis jurassien. Et je suis un ancien obèse, j'ai perdu pas mal de poids depuis 4 ans, et aujourd'hui je me lance dans des défis, des aventures sportives pour m'accomplir, pour promouvoir le dépassement de soi, et puis pour surtout se faire plaisir. C'est faire plaisir dehors, en quelque sorte, voilà.
Ouais, alors Thomas, on avait enregistré ensemble un épisode complet sur ton histoire, ton parcours. C'était le tout premier épisode du format L'Instinct Outdoor, au moment où j'avais changé le nom du podcast. Et c'était en 2021, donc ça remonte un petit peu l'épisode qu'on avait fait ensemble. Mais chers auditeurs, si vous souhaitez aller en savoir plus sur l'histoire de Thomas, je vous invite à aller découvrir son parcours sur ce format du podcast L'Instinct Outdoor. Même s'il est un petit peu vieux, ça vous donnera un petit aperçu de qui est Thomas, de son parcours, de ton histoire. Stéphane, à ton tour, est-ce que tu pourrais rapidement toi aussi te présenter, s'il te plaît, même si, comme avec Thomas, on a déjà enregistré plusieurs épisodes ensemble.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors, Stéphane est vosgien. Stéphane Brognard, il est aussi là pour accompagner Thomas dans sa démarche, dans ses démarches pour cette saison. Et j'accompagne Thomas en préparation physique et mentale maintenant depuis quelques semaines, même quelques mois. Et puis, je vais tenter, au travers de mon expérience d'entraîneur, de pouvoir lui faire mener à bien son expérience. Et puis voilà.
Alors c'est un peu le début d'une blague, ça. Hein. Un Breton, un Vosgien et un Jurassien sont en train d'enregistrer un podcast.
Ouais, ça pourrait.
Que va-t-il se passer ?
On ne connaît pas la fin, par contre. Hein.
Moi, je la connais, c'est le Vosgien qui va gagner, vous inquiétez pas.
Ouais, voilà, toujours pareil.
Ça dépend sur quel sujet. Si c'est sur la gentiane, je vous suis pas, ça c'est sûr.
Et si c'est sur le drapeau, c'est sûr que nous, on en a pas, on est peinard avec ça.
Moi, j'en ai un, par contre.
Avec Thomas, on va en coudre un qui va mêler les deux. ça va donner un beau projet, cette histoire. Bon, alors du coup, Thomas, est-ce que tu pourrais présenter ton projet 2024, qui est quand même un projet assez ouf. Si tu pouvais le présenter, s'il te plaît.
Alors, je vais présenter le projet. Je vais présenter un peu l'ensemble. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, on enregistre à trois, ça va permettre de comprendre un peu mieux. Donc moi, en mai 2023, j'ai fait une partie de la traversée du Jura en courant, et j'avais sélectionné une trace que Stéphane avait créée pour un défi pour lui. Et du coup, bon, tu m'as accompagné, ça, je pense que tout le monde l'avait plus ou moins compris. Et ensuite, je me suis lancé le projet donc de traverser le Jura de plusieurs manières différentes, en l'occurrence dans 7 sports différents, 7 traversées au fil des saisons. Et du coup, pour ce projet, qui sera aussi bien donc en raquette, en skating, en VTT, en vélo de route, en courant, à cheval et en ski à roulette, j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner, m'entraîner, mais il me fallait quelqu'un qui comprenne les défis, qui comprenne les obligations, et c'est évidemment vers Stéphane que je me suis tourné. Donc voilà un petit peu le projet de l'année, de vraiment traverser mon massif jurassien, je me l'accapare un peu, mais mon massif jurassien au travers des parcours de la GTJ, de différents sports pour toujours chercher des motivations, des contraintes, et apprendre de toutes ces choses, quoi, tout simplement.
T'as raison de te l'approprier, parce que je crois que cette année, il n'y a pas grand monde qui va y passer autant de temps que toi dedans. Stéphane, quand t'as une demande comme ça, assez particulière quand même, c'est quoi ta première réaction et qu'est-ce que tu te dis quand t'as eu la demande de Thomas en première instance?
Quand Thomas m'a appelé, on avait déjà échangé effectivement sur sa traversée du Jura. On avait échangé aussi parce que j'étais susceptible de partir de pas très loin de chez lui pour un défi, mais qui a pas pu se faire parce que les dates se calaient pas et ça se télescopait. Bref, une demande comme celle-là, comme toutes les demandes hein, des athlètes qui arrivent à la team point barre, c'est déjà de leur demander mais qu'est-ce qui te prend, ça va pas ou il y a un problème, t'as rien d'autre à faire dans ta vie. Et je vais forcément aller titiller non sur la réalisation parce que finalement la réalisation de Thomas n'est que la dernière roue de la charrette que la genèse de ce produit, j'allais dire de ce projet n'est pas du tout l'idée de vouloir traverser à tout prix. Je pense que derrière, il y a forcément quelque chose qui traîne, qui est de l'ordre de très personnel. Alors moi j'appelle ça une cause noble personnelle. On a un quelque chose au fond de soi qui nous donne envie de crier, de s'exprimer, de enfin je sais pas, de réaliser un rêve profond, une envie, enfin tout un tas de raisons, mais qui ne sont absolument pas concrétisées. Ce sont des choses qui sont au fond de ton cœur ou au fond de ton âme ou au fond de ta tête. Et c'est surtout là-dessus que j'ai appuyé sur Thomas. C'est-à-dire que malgré la manière dont il s'est présenté, on pourrait tout de suite imaginer qu'il a besoin de s'accomplir au travers de sa démarche corporelle et psychologique. Mais c'était peut-être pas aussi évident que ça en avait l'air. Et c'est pour ça que j'ai bien répété à Thomas. J'ai dit, OK, bon, si tu veux, mais explique-moi la genèse de ce projet. Qu'est-ce qui te pousse personnellement à avoir envie d'aller gesticuler? Alors, somme toute, un coup en cheval, un coup en kayak, un coup à ce qu'il veut. J'ai envie de dire, ça, c'est de l'ordre du détail. Par contre, qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire un défi personnellement? Et on va déjà partir de ce postulat que réaliser un défi sur une saison ou sur un week-end, ou etc., etc., sera une mise dans la matière de ce qui traîne au plus profond de toi-même. Seulement à partir de là, ça lui permet aussi d'apporter un cadre, une certaine densité à son événement, et que ce n'est pas juste une réalisation pour la réalisation, et que au travers de tout ce qu'il va mettre en place, de ses rencontres, des gens à qui il va en parler, comme là aujourd'hui, il va aussi essayer de faire transpirer sa cause noble personnelle qui le donne, qui lui pousse à avoir envie de réaliser ce genre de choses. Et seulement après, quand on avait mis ce cadre psychologique, qui va lui permettre aussi de tenir debout, parce qu'il va y avoir un paquet de doutes. Ce week-end, il y a déjà le premier, ça commence déjà très fort avec les doutes et peut-être de se demander comment tout ça va prendre tournure. Et si c'était juste un défi pour un défi et que derrière, il n'y avait pas l'aptitude psychologique de s'être donné une raison très personnelle et de faire parler cette réalisation qui va se dérouler tout au long de sa saison, ça peut rapidement avorter et puis s'arrêter là. Non, inévitablement, il veut mettre dans la matière quelque chose de très fort personnellement. Et à partir de là, ce sera beaucoup plus simple pour lui. Et oui, effectivement, après, je lui ai apporté toute ma touche d'expérience personnelle sur l'organisation et sur la manière de pourquoi celui-là à ce moment-là et pas celui-là, etc., etc., pour travailler tous les à côté. Tous les à côté, c'est le plus important dans son défi tout au long de l'année. Ce n'est absolument pas la réalisation sportive de l'instant, de quelques heures ou d'un week-end ou de 4 jours ou même d'une journée complète selon les sports. Mais c'est tous les à côté qu'il va falloir gérer et tous les à côté qu'il va falloir comprendre, parce que finalement la récompense quand tu fais un peu de l'aventure, c'est l'effort, c'est l'aventure par elle-même, c'est le défi sportif d'un week-end ou de deux. C'est tous les à côté qu'il faut gérer, c'est tous les à côté qu'il faut mettre en place pour avoir effectivement une grande disponibilité physique et mentale le jour de la réalisation de cette traversée en ski, de cette traversée en kayak, de cette transformée en VTT, de cette comme on veut, ça c'est pas. Mais pour être disponible pour faire ça, c'est une sacrée mise en place d'une préparation physique pour avoir le véhicule capable de répondre à des moments précis, à des contraintes très précises. Et ça c'est mon rayon et celui avec lequel je travaille pour Thomas. Mais c'est aussi de lui mettre et de l'avertir sur tout un tas d'éléments qui sont essentiels de gérer à l'avance et pas le jour même, pour que le jour même, il puisse avoir une grande disponibilité pour aller jouer, j'ai envie de dire. Voilà comment les choses s'organisent avec Thomas, ouais.
Alors avant qu'on revienne justement sur comment est-ce qu'on prépare tout ça, alors que ce sont des activités qui sont quand même si ça reste de l'ultra-endurance, ce sont des activités qui demandent des capacités physiques assez différentes, mais on reviendra là-dessus juste après. Mais c'est vrai que au-delà de l'effort physique, il y a aussi tout le volet, et ça c'est un truc sur lequel Thomas, toi t'insistes pas mal, c'est que au-delà de l'effort physique, c'est aussi une démarche presque entrepreneuriale de devoir préparer toutes ces aventures. J'en parlais avec Jonathan Labarre dans l'épisode 258 qui est aventurier, parce que l'aventure, ça demande des moyens, et les moyens, il faut aller les chercher. Et tout ça, c'est quelque chose auquel aussi tu te prépares, Thomas, j'imagine.
C'est ça. Alors, pour en revenir sur ce que vient de dire Stéphane, voilà, je pense que tout le monde a bien compris pourquoi aussi j'ai choisi Stéphane comme personne pour m'accompagner, parce que son discours, son expertise est porteur et te fait avancer. Donc sur la partie mentale, c'était une des parties vraiment obligatoires aussi à travailler, parce que bon bah le physique, voilà, si on fait le boulot, si on apporte les contraintes au corps, voilà, il se prépare, ça c'est une chose, mais toute la partie mentale, j'avais besoin pour cette année aussi d'être accompagné pour pousser encore plus loin, pour aller vraiment chercher à comprendre tous les leviers. Et voilà, c'est l'expertise de Steph qui m'aide aujourd'hui vraiment à avancer et à chercher au plus profond le pourquoi. Et oui, effectivement, j'ai mis vraiment la partie entrepreneuriale cette année dans ce défi, parce que au-delà de mes études de diététicien que je vais finir là au mois de juin, enfin j'espère du moins, y a vraiment une recherche de partenaires, parce que sur ce défi qui dure toute l'année, derrière on crée un film documentaire pour pouvoir en parler lors de conférences, pour pouvoir donner aussi envie à d'autres personnes, à des personnes qui aujourd'hui sont pas forcément des sportifs, qui sont voilà, qui ont juste envie de se donner un objectif, de se fixer des envies et de montrer que quand on est un peu monsieur tout le monde, parce que je me considère vraiment comme monsieur tout le monde, on peut réussir à accomplir des choses en cherchant le pourquoi tu veux l'accomplir, en qu'est-ce qui te donne la motivation, l'envie. Et donc aujourd'hui, ça fait partie prenante de mon métier d'entrepreneur, de baby presque aventurier un jour, et de pouvoir voilà, de trouver le fond pour aller mener à bien cette aventure, quoi.
Alors tu vois, Stéphane, Thomas, il se considère un petit peu comme monsieur tout le monde, mais est-ce que tu crois réellement que tout le monde pourrait y arriver?
Oui, tout le monde peut y arriver, parce que la structure, comme le rappelle Thomas, que je mets en place, est valable à peu près pour tout le monde. Quelqu'un qui n'a jamais fait un plat et qui a envie de se lancer dans la réalisation d'un magnifique repas pour Noël le 24 au soir, mais qui a jamais mis les pieds dans une cuisine, pourrait imaginer que c'est complètement fou de se lancer le jour de Noël avec 13 personnes à table. Et c'est exactement la même histoire. La personne qui n'a jamais fait de cuisine, mais elle a une bonne raison très profonde et personnelle d'avoir envie de faire plaisir à l'ensemble de sa famille, et que l'outil utilisé sera par exemple de faire un magnifique repas, et il va y avoir une mise en place incroyable pour que ça puisse se réaliser. L'histoire, elle est que là, elle est pas du tout dans la réalisation du physique, parce que monsieur et madame tout le monde, Kylian Jornet n'est pas monsieur et madame tout le monde aux yeux à peu près du monde entier en ce qui concerne le trail, mais peut-être qu'il est monsieur et madame tout le monde dans tout un tas d'autres sujets, et qui doit certainement utiliser les mêmes méthodes qui lui permettent de pouvoir réaliser des choses extraordinaires lors de ses épreuves. Et pour Thomas, il est monsieur et madame tout le monde dans le domaine du sport. J'ai jamais entendu parler d'un Thomas réalisant des performances qui puissent largement dépasser la moyenne. Il est dans des performances somme toute monsieur et madame tout le monde. C'est ça aussi qui veut dire qu'il est monsieur et madame tout le monde. Ce n'est pas son métier, il s'entraîne pas 35 heures par semaine pour pouvoir parvenir à faire des performances extraordinaires, de vivre de ses sponsors, etc., etc. Donc lui, il enclenche une démarche qui vient avant tout d'une envie profonde personnelle d'exprimer des choses, et il a choisi l'outil qui s'appelle le sport outdoor. Alors effectivement, on pourrait le faire passer tout de suite dans une catégorie d'extraordinaire, parce que les épreuves qu'il s'est choisies, ce ne sont pas des épreuves que monsieur et madame tout le monde, là pour le coup, auraient de but en blanc en se levant le matin à dire « je vais traverser le Jura en VTT », sauf que monsieur et madame tout le monde n'ont juste pas fait la démarche de vouloir réaliser et mettre dans la matière un quelque chose très au fond d'eux-mêmes, et qui veulent veulent le mettre dans la matière. Et à partir de là, le jour où monsieur, madame, tout le monde font cette démarche en disant, je te donne un exemple peut-être pas tous ou bête, ça fait 15 ans que je suis obligé de m'occuper de mes enfants, j'ai 3 enfants, j'ai jamais fait rien pour moi, etc., etc. Et je commence à me libérer de ce carcan de mon mari qui m'oblige presque à rester à la maison, à faire des gâteaux quand les enfants sortent de l'école et de correctement les élever, etc., etc. J'ai jamais pensé à moi, et cette personne t'appelle au bout de 15 ans, elle dit voilà, je viens de sortir de cette prison presque dorée qui m'avait été proposée il y a 15 ans ou 17 ans en arrière quand je me marie, et je suis sorti de tout ça, et j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de faire quelque chose par moi-même, j'ai envie de... Mais elle dit, je sais pas quoi, j'ai pas trop de moyens, j'ai pas trop d'outils, et j'ai l'impression que ce sport qui s'appelle le trail, ça a l'air assez pratique de la région où j'habite, juste une paire de baskets et c'est parti. Cette personne, du jour au lendemain, reste monsieur et madame tout le monde, et va mettre dans la matière le 90 km du trail de Gérardmer, après 2 ans de... Et ça en fait rien du tout d'elle d'extraordinaire, c'est simplement qu'elle a enclenché quelque chose comme monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas son travail, comme pourrait l'être, par exemple, certains athlètes dans des tas de sports, comme certains musiciens dans des tas d'orchestres philharmoniques, etc., etc. C'est en ça que c'est un monsieur et madame tout le monde, mais il a enclenché. Et une fois que c'est enclenché, bon, bah, c'est tout à fait réalisable, il va se passer tout un tas de choses, effectivement, et c'est ça l'histoire aussi qui va faire qu'elle est belle, c'est que c'est cet enclenchement qu'on est en train de raconter, on est au balbutiement, on est au début, et on met les choses en route. Alors, on parlait d'entrepreneuriat, et dans l'histoire de l'entrepreneuriat, il faut bien aussi, et ça c'est un sujet sur lequel avec Thomas, on n'a pas encore tout à fait abordé, mais que je tiens aussi à tout doucement, quand les choses se caleront, bien lui répéter, c'est que sur un tel projet, comme moi les projets que je peux monter maintenant depuis 2018 dans les projets d'aventure, il ne faut pas se mettre au centre du projet. Se mettre au centre du projet, ça veut dire aussi, on entend souvent, je vais m'entourer. Non, c'est le projet qui doit s'entourer pour 2 raisons. La première, c'est que toutes les personnes qui vont venir graviter autour du projet, ils préfèrent donner à un projet que de donner à un être humain. Donner à un être humain, ça reste des connotations assez compliquées, c'est de l'humain qui donne à de l'humain avec des rôles de subordination peut-être, etc., ou des rôles de pouvoir sous-jacent ou un peu sous-entendu, même si c'est dans le milieu du sport, même si les choses plaisent, c'est jamais forcément 100% évident et 100% réussite. Par contre, donner à un projet a un certain état d'esprit, et les personnes qui vont donner à un projet vont aussi se rallier à la cause noble du projet, même à l'énergie vitale du projet, voire vont peut-être venir l'enrichir, un peu comme une roue de vélo, avec un moyeu et des rayons, et au sommet de chaque rayon, tu vas mettre des compétences qui peuvent être de l'ordre du financement, de la communication, du manutentionnaire à bord de ce projet, de l'investigateur du projet, de celui qui va, enfin, etc., toutes les composantes qui vont agir sur le moyeu de la roue pour le faire tourner. Tous les rayons d'une roue de vélo pour que la roue tourne correctement doivent être des rayons à peu près de la même taille, même très précisément de la même taille. Donc, il n'y a pas des gens plus importants que l'autre. Et surtout, ils agissent sur le projet. Et agir sur ce projet va aussi, chaque personne dire, bah non, je donne pas à lui, je donne au projet. Et se sent beaucoup plus impliqué que d'être obligé sans cesse d'aller les tirer, d'aller les tracter. C'est-à-dire qu'il y a une implication sur le moyeu de la roue, une fois que tu es dans cet égrégore, hein, de cette roue qui a été constituée, ça s'enclenche. Et surtout, ça va donner aussi à Thomas, une fois que les choses seront, parce que tout le monde agira avec ses forces, et c'est pas à toi de les tirer, c'est eux qui vont volontairement, après leur avoir proposé, agir avec leurs forces et leurs armes et leurs possibilités sur ce moyeu de roue. Et Thomas se détache de pas mal de choses, notamment d'avoir le temps de se préparer, d'avoir le temps de se renseigner sur tout un tas d'éléments pour pouvoir réaliser. Parce que sinon, il va se retrouver, s'il est au centre du projet, il se retrouve un peu comme un couillon, à être obligé de faire un tas de gestion incroyable et de ne pas aller... Parce que au final, c'est quand même l'obligation de tenter de réaliser. Mais si c'est pas possible, parce que il a passé beaucoup plus de temps à faire de l'organisation matérielle, financière, etc., etc., que là, effectivement, ça commence à être plus délicat. Donc, mettez, quand vous construisez un projet, non, ne vous mettez pas au centre du projet, ça vous protège de tout un tas de choses, mais aussi, surtout, ça permet à tous les intervenants de ne pas être dirigés par quelqu'un qui pourrait aller tout le temps les tirer ou leur obliger à faire des choses, mais à eux-mêmes, une fois qu'ils se sont engagés, se sentir obligés d'actionner sur le moyeu de la roue pour ah mince, je fais partie à ma petite dose de celui qui va faire tourner ce moyeu de la roue. Et ça, c'est des éléments qu'il faut ne pas oublier en termes d'organisation. C'est tout simple à faire, mais une fois que c'est un peu intellectualisé, on essaye de tenter de le mettre dans la matière, de l'écrire, et généralement, on passe aussi à un moment, c'est ça l'entrepreneuriat dans ce genre de petits projets qui peuvent effectivement découler après, en ayant respecté ces idées-là, et ben peut-être d'aller un peu plus loin et de créer une autre roue de vélo dans un autre projet et qui peut même devenir professionnel pour Thomas, ouais.
C'est beaucoup plus facile en plus quand tu te détaches du projet et que tu y crois et que tu penses vraiment que ton projet en vaut la peine plutôt que de te mettre comme acteur principal et unique et pour aller chercher des partenaires, surtout quand on a un petit peu du mal à quand on n'est pas, comme on dit vulgairement, un vendeur de tapis et qu'on a un peu du mal à aller chercher des financements, c'est plus facile de vendre un projet quand on y croit vraiment. Thomas, tu voulais réagir, je t'ai un peu coupé le...
Ouais, je voulais réagir, c'était un peu la conversation qu'on avait hier avec François, justement sur le fait dans nos organisations de s'entourer de personnes de compétences qui permettent de soulager la création du projet. Moi, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai des gens qui, voilà, qui ont rejoint l'aventure de par eux-mêmes, en plus parce qu'ils ont cru au projet, donc c'est ce qui est encore plus beau, et qui me dégage pas mal de temps sur un peu la communication, tout ce qui va être mis en place autour. Et acteur de ce projet, donc c'est ce qui est super et c'est ce qui rejoint vraiment ce que Stéphane vient de dire pour mener à bien et pouvoir moi me concentrer sur ce que moi j'ai à faire de la meilleure des façons possibles, quoi.
Et alors justement, Thomas, c'est quoi cette cause noble personnelle, comme Stéphane l'appelle, que tu portes pour aller réussir ce projet? Et si tu pouvais aussi, je t'en ai déjà parlé, comme tu dis, hier, on a un petit peu papoté par messages vocaux. C'est quoi pour toi l'élément qui fera que ce défi est réussi ou non?
Alors, pour la question du défi réussi ou non... J'ai pas envie d'y répondre tout de suite parce que j'ai prévu sur mon podcast ta réponse en direct. Donc j'y répondrai plus ou moins directement. Mais la cause noble, moi, c'est vraiment rechercher à toujours avancer et à montrer qu'il y a rien qui est impossible. Voilà. Depuis que j'ai fait cette traversée du Jura l'année dernière, qui m'a donné vraiment l'envie de toujours me dépasser. J'ai vraiment écrit cette histoire en me disant, il n'y a rien qui est impossible. Si on cherche les solutions, si on met en place des choses pour avancer, pour toujours se dépasser, pour toujours chercher la solution au problème sans jamais baisser les bras, eh ben, il n'y a rien qui est impossible. Alors, je ne dis pas que j'échouerai pas, je ne dis pas qu'il y a une traversée qui ne va pas peut-être aller au bout, je ne sais pas. Aujourd'hui, on est incapable de le dire et je suis incapable de le dire. En tous les cas, si toutefois je venais à ne pas aller au bout de quelque chose, bah, ça ne serait pas un échec, ça serait vraiment un apprentissage en me disant bah, à ce moment-là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu n'as pas fait correctement, quel a été le problème, sur quoi tu n'as pas su rebondir. Et c'est vraiment la cause que je veux défendre, c'est ma cause profonde en disant que rien n'est impossible, il faut s'en donner les moyens, il faut essayer d'avancer, il faut construire la machine chacun à son échelle, chacun à son niveau pour pouvoir atteindre l'objectif que tu te fixes. Voilà, en gros, c'est si tu veux atteindre le sommet, arrête de regarder la montagne, gravis-la, donne-toi les moyens de ce que tu as envie. Il n'y a pas de petit objectif, il n'y a pas de petite montagne, il n'y a pas de petit Everest et chacun à sa propre échelle peut accomplir des belles choses, quoi. C'est un peu la cause que je défends et que je mets en place pour moi, quoi.
Alors tu vois, Stéphane, ça c'est un sujet qui me passionne, et parce que c'est un peu la genèse de ce podcast, de dire aux gens voilà, vous pouvez réaliser les choses que vous avez envie de réaliser, n'attendez pas, vaut mieux fait que parfait. Et pour autant, tu vois, l'autre jour j'ai été reçu par une jeune fille qui a lancé son podcast et qui a attendu 3 ans avant de lancer son premier épisode. Alors j'étais très honoré d'être l'invité de son premier épisode de son podcast, mais je me suis dit, mais pourquoi avoir attendu 3 ans pour lancer ce podcast? Et dans les objectifs que les gens se lancent, il y en a plein qui osent pas comme ça se lancer, y aller, et pour autant, enfin voilà, tu en fais partie, j'en fais partie, on répète, que allez-y, faites-le. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont toujours ces blocages, à ton avis?
Le blocage, il est très très simple dans ce que tu viens de dire. C'est dès que tu commences à vouloir jouer dans la même cour que plein d'autres et à te comparer. C'est-à-dire que quand Thomas il nous explique que lui sa cause noble c'est de réaliser des choses pour montrer que on peut que à l'impossible nul n'est tenu, que l'on peut réaliser des choses extraordinaires, il rentre dans une catégorie de personnes qui n'est pas du tout celle de je vais tenter de battre les records de toutes les traversées du Jura dans tous les sports qui ont été faits, ou là peut-être que là il y a déjà eu des tentatives en courant, en roller, en ski roue avec des temps, des records. Là tu rentres dans la catégorie de tous les gens qui veulent, qu'il y en a plein dans cette catégorie-là. Lui, il est dans sa seule petite catégorie et c'est son championnat du monde à lui, mais il y a qu'un seul concurrent. Tu vois, il fait le championnat du monde des gens qui veulent montrer des choses en réalisant plusieurs traversées du Jura. Excuse-moi de te dire que cette catégorie, elle est unique. Et c'est surtout le point de départ. C'est-à-dire que cette personne, elle a passé son temps à dire « je veux faire du podcast », elle n'a pas dit « je veux faire quelque chose qui va me réaliser à ce moment précis de ma vie au travers d'une cause noble très personnelle ». Elle a dit « je veux faire un podcast ». Donc elle a fait un peu une clé de 12 et elle l'a un peu fait à l'envers, c'est-à-dire qu'elle est partie de la finalité. Le podcast n'est que la dernière roue de la charrette. C'est pas podcast qu'il faut penser, c'est qu'est-ce que je veux mettre dans la matière en ce moment qui traîne dans ma tête. Une fois qu'elle a trouvé ça, elle dit « et quel outil j'utilise ?» Il semblerait que le podcast soit quelque chose qui puisse, à ce moment précis de ma vie, me permettre de réaliser des choses, de mettre dans la matière. Hein. Il y a un podcast, ça se touche, ça se voit, ça s'entend, c'est une matière. Et qu'à partir de là, elle dit « je vais utiliser ce support, donc je ne vais pas faire un podcast, je vais mettre dans la matière quelque chose qui traîne au plus profond de moi-même. » Et à partir de là, elle devient la seule dans sa catégorie, et c'est comme ça qu'elle va tenter de devenir champion du monde de son petit monde. Parce que si elle veut être dans la catégorie des podcasts, c'est déjà perdu d'avance. Parce qu'il y aura toujours meilleur que toi. Toi, tu crées ton podcast, François, et puis il y a un mec qui te dit « ah, mais j'ai entendu parler d'extraterriens, c'est un peu comme toi. » Oui, bon, bah, ok, bah, il est meilleur que moi. Enfin, si tu cherches dans la catégorie podcast, tu trouveras toujours un type meilleur que toi, qui a fait plus d'audience, qui a fait plus de ci, qui a fait plus de ça. Si tu cherches dans la catégorie trailer et ultra-trailer, tu trouveras toujours un type. Enfin, t'en sors jamais, sinon tu fais absolument plus rien. C'est la comparaison de vouloir participer à la même épreuve avec la même mentalité et les mêmes fondamentaux, bien souvent très superficiels, que peuvent être à peu près tous les concours et les comparaisons les uns avec les autres. Donc cette personne, elle serait passée tout de suite par la case « mais à quoi va servir ce podcast ?» ou avant même de parler podcast, c'était « qu'est-ce qu'à ce moment très précis de ma vie j'ai envie d'être connu et j'ai l'impression que c'est le truc facile, je me mets tout nu sur internet et puis ça va fonctionner. Bon bah ok, très bien, si c'est sa cause noble, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais entre guillemets, elle, si elle a envie d'exprimer son truc, elle était peut-être pas obligée de rentrer dans la catégorie podcast, mais plutôt dans la catégorie champion du monde de son petit monde à elle, ouais.
Et alors du coup, quand on a un projet comme celui de Thomas physiquement, qui nécessite des, comme on le disait tout à l'heure, des capacités différentes, Thomas, toi, tu vois ça comment, l'adaptation de ton corps à, parce que c'est quelque chose que tu as déjà fait en ultra trail, on l'a dit hein, en off notamment avec cette traversée du Jura qu'on a fait au mois de mai, enfin. Que j'ai fait en partie et que tu as fait en totalité. Comment est-ce que tu penses que ton corps va s'adapter, et notamment avec cette particularité que au niveau de l'alimentation, c'est quand même quelque chose de spécifique pour toi.
Fais gaffe à ce que tu vas dire, Thomas.
Pour la pression.
Bah, ouais. Alors, je sais pas. Non, je rigole. En fait, le tout, c'est de créer, les contraintes nécessaires pour que le corps justement sache s'habituer et se trouver les solutions pour avancer. Donc là, pour cette partie là et ben pour préparer au mieux, et là je botte un peu en touche, j'ai pris Stéphane pour ça, parce que lui il va savoir créer l'entraînement pour que mon corps se mette en contrainte et pour que il puisse avancer et encaisser l'entraînement suivant et ou pas. Et vraiment s'habituer à trouver les solutions nécessaires. Alors c'est vrai que là c'est multisport, donc on va, voilà, il va y avoir différentes façons de s'entraîner tout au long de l'année parce que je vais passer du ski au VTT, du VTT au vélo de route, du vélo de route à la course à pied. Alors après on a fait un gros travail de PPG. Alors c'est la première fois de ma vie que je fais ça et que je dis ça. Ça n'a jamais été bien simple pour moi, mais je l'ai fait et je l'ai vraiment fait de façon la plus sérieuse possible avec des séances dont la fameuse il n'y a pas très longtemps où le message qui a été envoyé à Stéphane, je le dirai pas à haute voix parce que s'il y a des petites oreilles qui écoutent, c'est pas bien. Mais mais où tu travailles la partie bah là c'est la partie physique mais aussi la partie mentale et c'est ce qui est intéressant dans cette approche de travail. Là, donc le tout c'est de créer les contraintes pour que le corps aille chercher un peu plus loin. Aller chercher les solutions pour avancer et c'est comme ça que je vais réussir je pense à avancer petit à petit et à amener à bien voilà ces ultra longues distances qui vont bientôt s'offrir à moi quoi.
Et la solution aussi que moi je lui apporte, ce n'est pas d'être un performeur. Il y a deux catégories, hein. Il y a le sport qu'on pourrait dire de haut niveau et codifié, que tu sois premier ou avant-dernier de l'Ultra Trail du Mont-Blanc, tu cherches à minimiser considérablement toutes les parts d'incertitude. Alors chacun a sa place et chacun a son niveau, mais le but de beaucoup de personnes quand ils entendaient des sports codifiés, tu minimises totalement ou en grande partie ou le plus possible ou tu tentes de le faire les parts d'incertitude pour essayer de rendre une copie avec le véhicule qui va faire la plus belle des performances à chacun à son niveau. Ça, c'est la partie, on va dire, sport de haut niveau ou sport codifié. Après, Thomas, là, il part à l'aventure. Alors, l'aventure, c'est une autre définition, c'est tu passes ton temps à gérer les parts d'incertitude qui te tombent sur le paletot un peu, je vais pas dire toutes les heures, mais pas loin, parce que minimiser toutes les parts d'incertitude d'un truc qui n'est pas très codifié ou qui n'est pas très propre ou qui n'est pas très bien organisé, hein, ce qui est le but de l'aventure. Et c'est presque là où on va juger la qualité et le niveau de performance d'un aventurier, c'est ses capacités à savoir gérer les incertitudes qui lui tombent sur le paletot et pas son niveau de performance du nombre de watts ou du nombre de kilomètres en une heure. C'est pas du tout la même chose. Alors, on a la chance d'avoir un corps qui s'appelle un beau bout de pâte à modeler et on en fait à peu près ce que l'on en veut de façon très rapide. Il suffit simplement d'adapter le type d'agression et comme le corps n'aime pas souffrir, va mettre en place en réponse à ces agressions une adaptation et quelque chose qui va lui permettre d'obtenir assez rapidement en ayant des agressions ciblées par rapport au sport d'après, de la course à pied, on va passer au vélo, du vélo, etc., etc. Et que suite à ces agressions, les mises en place d'adaptation vont se faire rapidement et une fois qu'il a les adaptations, en quelques mois, il va passer d'un corps de trailer à celui de skieur de roue, mais il sera pas de niveau international. Mais j'ai presque envie de dire, on n'en a strictement rien à faire de qu'il soit de niveau international en ski roue, en course à pied ou voire même si on avait fait que de la course à pied, il aurait très bien pu faire la traversée du Jura dans un niveau de performance bien plus élevé que quand la traversée du Jura en courant va arriver au mois de septembre. Eh ben, c'est pas grave parce que on sera dans tout à fait autre chose, c'est la réalisation globale. Donc, moi, l'idée, c'est surtout que je l'ai construit de façon globale. Il a même pris un peu de poids parce qu'on a construit un corps sur l'ensemble avec une prise musculaire assez conséquente par rapport peut-être à la préparation physique spécifique qui va arriver après sport par sport avec des agressions. Mais je sais que d'avoir construit un corps dans sa globalité sera un corps capable de répondre à peu près à tous les types de contraintes sans être vraiment déséquilibré sur des points et un peu trop fort sur d'autres, etc. On a un niveau optimum moyen général qui est très bon à peu près partout, mais qui n'est pas excellent nulle part. Donc ça veut dire qu'après, c'est assez facile pour moi d'aller tout doucement lui proposer des agressions qui vont mettre en place des réactions du corps, qui vont lui permettre d'avoir grosso modo le véhicule le plus adapté possible à ce qu'il va avoir besoin de faire. Et surtout, le fait d'avoir contrôlé correctement cette préparation physique, qui est à peu près le seul levier et celui de l'organisation matérielle sur lequel on peut jouer. Et là encore, il va falloir qu'il passe beaucoup de temps à être... Les leviers qu'on peut maîtriser, qu'on peut contrôler, ils sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on peut utiliser sur une course codifiée. Et une fois qu'il aura géré ça correctement, d'avoir un corps qui répond sans être trop embêté ou à tendre le dos ou à se demander comment ça va se passer, il aura une grande disponibilité pendant à l'intérieur de ses efforts pour pouvoir gérer les moments justement d'incertitude pour pouvoir gérer les tuiles qui te tombent dessus. Il aura de la dispo physique et mentale de pouvoir y répondre sans que tout ça devienne patatrac, parce que les éléments gérables auront été préparés et de façon optimum, qui peut même, et ça c'est l'expérience qui va apprendre aussi, et que moi ça fait un paquet d'années que j'ai compris ça, qu'en aventure il faut tout faire aussi pour que les problèmes tôt ou tard qui finissent par arriver, il faut tout faire pour déjà au préalable avoir un peu de temps d'avance, quelques secondes d'avance sur soi-même, pour vaut mieux qu'ils se retrouvent dans la roue arrière que de les voir arriver dans la roue avant et puis de passer du temps à la gérer. C'est pas qu'on n'arrive pas à les gérer, mais si on peut déjà en éliminer une paire par des types de comportements dont aussi je vais essayer de lui apporter au fur et à mesure, parce que c'est assez subtil ça, de mettre les problèmes dans la roue arrière. C'est tout ça aussi qui fait que la réalisation se passe correctement.
Alors tu vois Thomas, dans la team des aventuriers, il y a plutôt deux écoles. Il y a celle de Guillaume Arthus qui visuellement se visualise en train d'avoir absolument tous les problèmes possibles et imaginables quand il a réalisé sa Via Alpina. Et puis il y a la team d'Eléonore avec qui tu m'as mis en relation et avec qui j'ai enregistré un épisode récemment. Qui ne se visualise pas parce que ça n'est pas utile pour elle et qui prévoit de compenser les problèmes qu'elle rencontre en s'adaptant. Toi, tu es plutôt de quelle école ?
Moi, je suis plutôt de l'école à m'adapter. J'ai du mal à visualiser tout ce qui pourrait m'arriver. Parce que déjà, je préfère ne pas y penser et me consacrer sur autre chose. Alors, bien sûr, il y a toujours des choses à laquelle on peut penser parce qu'on écoute beaucoup, on se renseigne, voilà. Même s'il n'y a pas de parole divine, on est bien d'accord. Mais on apprend de tout le monde. Mais moi, je préfère partir, je dirais, avec une légère part d'insouciance en me disant, voilà. J'ai pensé à ça. Pour moi, c'est ce qui est en priorité à penser. Par contre, ce qui peut arriver le long de la route, je préfère trouver la solution de par moi-même et pas forcément y avoir pensé avant. Parce que déjà, un, ça ne peut ne pas arriver. Parce que deux, je préfère avoir une disponibilité mentale sur tout ce qu'il peut y avoir autour à préparer plutôt que de penser à des choses qui potentiellement ne peuvent pas arriver. Donc voilà, je suis un peu dans la team Léonore en me disant, à l'instant T, réagir. Par exemple, très simplement, là, sur les traversées, je pars avec un minimum de ravitaillement sur moi. Le tout va être de me ravitailler aussi le long du parcours parce que je veux pas d'assistance, parce que je veux me débrouiller de par moi-même. Et qu'on n'est pas au fin fond d'un désert ou je ne sais pas quoi, on traverse quand même pas mal de villages, donc je vais trouver des solutions dans ces villages. Il y a des refuges, il y a plein de choses, voilà, ça fait partie des petits plus où je me dis, je préfère ne pas trop me charger, je préfère de dérouler mon aventure et mon histoire comme elle va aussi un petit peu venir, sans tout préparer et me mettre une pression mentale en me disant, ah, faut que je pense à ça, voilà, j'ai le minimum. J'ai de quoi faire, mais je veux une disponibilité mentale, quoi.
C'est un peu ta façon de faire aussi, Stéphane, quand tu pars en Russie à vélo.
Ouais.
C'est un peu comme ça aussi que tu fonctionnes.
Ah, alors c'est un très bon sujet. J'avais tendance à vouloir organiser de A à Z aussi beaucoup de choses dans mes premières aventures où il n'y a pas encore si longtemps que ça, de maîtriser un maximum d'éléments maîtrisables pour justement avoir de la dispo. Et là, j'ai tendance à pousser le process un peu plus loin, et notamment la Russie a vraiment été pour moi le premier test de cette histoire. J'ai fait toute une préparation physique qui me permet que cette histoire de mener un vélo cargo avec 40 kilos de matériel, vélo compris, je ne sois pas obligé de le subir, parce que si déjà là, cet élément-là n'est pas correctement accompli, ça devient vite une aventure un peu différente. C'est un souci de moins, j'ai envie de dire. Mais par contre, sur tout un tas de petites organisations que j'aurais très bien pu maîtriser, contrôler, organiser, qui est celle, par exemple, une fois arrivé à Moscou, de prévoir le logement l'hébergement exactement, de quasiment à donner la date et l'heure à laquelle j'allais arriver à l'hébergement, que de là leur dire que j'allais rester exactement tant de jours, d'avoir déjà presque prévu un camion, un taxi ou je ne sais quoi qui me ramène à la frontière, de là de trouver le, enfin de d'avoir presque le cheminement. Non, je suis parti de Sapoua ici dans les Vosges, je suis allé jusque Moscou et à peine, et je communiquais sur le fait de dire je n'ai absolument rien prévu sur une fois l'arrivée en Russie avec toutes les obligations et les contraintes que j'avais en Russie, qui étaient par exemple de celle de dormir forcément dans une auberge ou dans un gîte ou dans un hôtel. Je pouvais pas, comme depuis mon départ, dormir dans les bois. Que arrivé à Moscou, je ne savais absolument pas où j'allais arriver. Et puis personne parle anglais là-bas, hein, donc ou même c'est assez délicat. Je ne savais absolument pas comment rapatrier un vélo cargo avec un sac à dos depuis Moscou pour revenir jusque chez moi. Mais je communiquais sur ce fait-là, de dire je n'ai rien, absolument rien organisé. Et ce qui devait arriver, dont je n'étais pas forcément sûr, non que je ne fais pas confiance à personne, c'est qu'avant je maîtrisais tellement les éléments que je fermais la porte à des personnes qui avaient peut-être la possibilité et l'envie de venir rentrer dans le projet. Et à peine passé les premiers kilomètres, même déjà un petit peu avant en Russie, je commence à recevoir des messages, enfin Joy me communique en me disant il y a des personnes sur ton réseau Instagram ou autre qui sont en train de t'envoyer un message en disant bah oui, on voit bien que Stéphane part, va arriver en Russie, n'a absolument rien prévu, alors moi je lui conseillerais, ou tiens il peut, et puis au fur et à mesure que j'avançais, ça a terminé à la communauté française à Moscou a été mise au courant et est vraiment contente, on attend, on suit ton aventure via ta balise, on t'accueille, on trouve une auberge de jeunesse, on fera un grand pot réception, et après pour le retour, alors comment ça se passe? Alors j'en voyais au fur et à mesure que j'avançais, j'avais pas trop d'idées, et ça a terminé que effectivement après 3-4 jours à Moscou, il y a un taxi qui est là, qui m'emmène à la frontière, de là quelqu'un connaît en Lettonie, une amie qui vient me chercher avec son 4x4, qui m'amène quasiment à la frontière avec la Lituanie, dormir sur un quai de gare, de là je charge le vélo, j'arrive à Vilnius, et à Vilnius un transporteur vosgien poids lourd a un homologue à Vilnius qui amène un camion vide une fois par semaine à Paris, à Rungis. Et ben il dit bah écoutez, j'ai mis en relation mon homologue, dites à Stéphane que à Vilnius telle adresse, quelqu'un qui parle en plus français sera capable de l'accueillir, de garder son vélo, et son vélo partira à Paris, et puis de Paris les transporteurs vosgiens lui ramèneront son camion en ramenant du fret, et le vélo il est arrivé par un des employés devant la maison, parce que cette chaîne, j'avais autorisé l'entrée dans mon projet sans le vouloir, j'avais laissé les portes ouvertes. Si vous verrouillez tout, c'est souvent un peu on n'a pas trop envie d'aller s'immiscer là-dedans, parce qu'on se dit le mec il a tout verrouillé, tout prévu, et que toutes ces parts du coup donnent une certaine valeur encore plus grande à l'aventure parce qu'elle a été partagée. Et l'idée de vouloir être totalement autonome, il faut faire attention aussi à ce terme, parce qu'il y a des gens du coup ils vont complètement se fermer. T'as presque envie de leur dire écoute, mets-toi dans une pièce complètement close, mets-toi sur un tapis roulant et puis ferme-toi au monde si tu veux. Non, l'idée de vouloir partir en autonomie, c'est plutôt maintenant, moi, dans ma définition, j'aurais tendance il y a quelques années à vouloir tout verrouiller, et maintenant je suis plutôt tendance à dire je pars avec ce qui me semble être le minimum vital qui me permet au quotidien de pouvoir assouvir à peu près tous les besoins fondamentaux que j'ai besoin pour avancer, mais par contre je laisse très grands ouverts la possibilité à tout un tas de personnes de pouvoir entrer, parce que nous sommes des êtres sociaux, on n'est pas du tout des êtres à vouloir se couper du monde volontairement, en plus en passant devant la fenêtre de chez les gens et en étant fermé, c'est peut-être pas forcément une bonne solution. Par contre, de laisser grand ouvert la possibilité et de dire que c'est grand ouvert va offrir aussi une belle histoire inattendue et apporter tout un tas de réconfort dont chaque être humain, peu importe ce qu'il est en train de faire, aime aussi avoir cette forme de chaleur humaine, de réconfort, etc. etc. Et voilà comment moi maintenant je gère un peu ces histoires d'autonomie et d'ouverture, et ma prochaine aventure qui se passe dans le désert va inévitablement être, parce que ça va encore aller plus loin dans cette idée-là, mais je vais maintenant plutôt vers ça pour offrir cette belle possibilité d'arriver du sang neuf et des idées nouvelles dans le projet et des spontanéités de choses qui font forcément sourire, qui font chaud au cœur, qu'on adore voir, et que ce genre de rencontre c'est pour la vie et on l'a en tête toute sa vie, et c'est ça les petites histoires de l'aventure dans l'aventure qui sont, ouais, c'est juste magnifique, ouais.
Et pour, c'est vrai pour, que c'est ça qu'on retient, hein. Vas-y, Thomas.
Ouais, pour rebondir sur ce que disait Stéphane là tout de suite, moi c'est pareil. Là, je pars, j'ai vraiment l'envie de partir en autonomie, bah, pour toujours voilà chercher des solutions. Mais la porte est fermée à personne. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui travaille pas lundi mardi et qui a envie de venir bah, traverser un bout pendant 10, 15, 20 bornes avec moi, bah viens, on partage, on discute, ça permet d'échanger, de se connaître, de faire des rencontres formidables. C'est l'esprit que j'aime. De même que j'ai des refuges qui ont entendu parler du projet parce que je voilà, j'ai pas contacté tous les refuges directement, mais j'ai reçu 3 ou 4 mails en me disant bah tu passes quasiment toute la traversée devant le refuge, tu sais qu'il est toujours ouvert, tu peux m'envoyer un message à n'importe quelle heure, voilà, même s'il faut te faire une soupe ou n'importe quoi à 2 heures du matin, bah c'est ouvert. Et tu te dis bah les gens sont voilà sont hyper accueillants et c'est là que tu te dis que bah t'as pas besoin de partir avec 50 millions de choses parce que la solution est aussi sur le chemin quoi. Donc c'est super cool quoi.
C'est vrai que ça, c'est une croyance quand tu démarres un peu ce genre de projet, de l'aventure, d'avoir besoin de tout cadrer, etc. Et en fait, bah c'est Mike Horn hein, qui dit que si tu veux connaître les 100% des réponses qui sont sur le chemin, tu pars jamais. Mais il y a quand même des choses qui font peur aux gens. Je sais pas, il y a des gens, je sais pas, comme ma femme par exemple, qui a peur de courir la nuit. Ça, tu vois, tu peut difficilement le combattre, si ce n'est d'aller un petit peu plus souvent, te rendre compte que ça se passe bien, etc. Toi, Thomas, dans ce défi, qu'est-ce qui te fait peur?
Qu'est-ce qui me fait peur? Je sais pas. J'ai peur tout court, mais la bonne peur, la peur qui te donne envie bah, d'y croire, qui me donne envie d'y aller, qui donne envie de me prouver à moi-même que je suis capable d'essayer de faire ce que je dis. J'ai une image qui m'est venue l'autre jour. Je discutais avec une amie et j'ai une image qui m'est venue. C'était, j'ai un peu l'impression d'être un gamin de 5 ans à qui on vient d'offrir une boîte de Lego. Donc il est super content, mais sur la boîte de Lego, il y a marqué à partir de 10 ans. Donc en gros, c'est touche pas à ça, petit con. Mais vas-y, fais ton expérience et crois à ça. Moi, la seule peur, je dirais, c'est éventuellement de me blesser ou autre pour voilà, c'est parce que ça mettrait à mal l'aventure au total. Mais je pense que ça, c'est la peur d'un peu monsieur tout le monde. J'ai pas de peur particulière. Après, peut-être que sur les premières traversées, il y a des choses qui vont remonter, peut-être, mais voilà. J'ai pas de peur particulière. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais pas vraiment, quoi.
Tu penses que c'est de la prétention, Stéphane?
L'histoire de la peur sur ce genre de projet, la première des peurs qu'on peut tout à fait imaginer, parce que Thomas et baigne aussi dans un milieu de sportif, on est dans un podcast où on est dans le milieu du sport et moins dans celui de l'aventure. On a encore plus d'années, moi y compris, avec Dossard ou avec optimisation ou avec tout ça. Donc la première des peurs, c'est pas la peur de l'échec ou c'est pas la peur de réussir, c'est surtout la peur d'imaginer ne pas assumer une certaine performance peut-être. Et l'idée d'imaginer que de ne pas aller au bout de la traversée en courant pourrait être un échec. Quand tu parles d'aventure, le mot-là n'existe même pas. On sait même pas ce que ça veut dire parce que ça, c'est des comportements de sportif. Et ça, c'est principalement la première des peurs que Thomas pourrait inévitablement avoir parce que on est encore dans une définition un peu sportive de cette histoire-là. Alors ça, c'est la principale peur. Après, il a dans toutes ces aventures-là, il n'a pas d'engagement physique qui pourrait lui prêter le soupçon d'avoir peur de s'endommager sérieusement, physiquement, etc., etc. Personne n'est à l'abri quand on fait du VTT sur les sentiers d'une mauvaise chute, personne n'est à l'abri d'un coup de grisou avec un temps incroyable en courant et que ça puisse mal finir sur l'orientation. Enfin, mais principalement, il est sur du très comestible à peu près dans tous les domaines. Donc ça, c'est pas, il n'y a pas réellement de possibilité d'avoir peur. Et entre guillemets, c'est plutôt intelligent de sa part d'être parti dans une aventure avec en minimisant aussi quelque part d'engagement physique qui deviennent des engagements moraux assez importants. Rajouter à sa cause noble personnelle, ça ne méritait absolument pas un engagement et d'aller se mettre dans des situations presque très engagées physiquement. physiquement et moralement, ça n'a absolument rien à faire dans ce genre d'aventure et surtout avec ce genre de cause noble. Donc pour lui, c'est une très très bonne idée d'être resté sur quelque chose de plutôt comestible parce que ça n'avait pas lieu d'être dans un engagement physique et moral plutôt limite, parce que ça n'aurait jamais rien changé à l'assouvissement de sa cause noble personnelle. Ça aurait peut-être davantage d'ailleurs mis des parasites et faire avorter un projet sur des sujets qui en plus n'ont rien à faire là, ça aurait été très dommage. Là, il utilise un support qui est juste parfait, d'utiliser le comestible qui sont utilisés tout au long de l'année dans son territoire, que l'accent de son territoire est mis aussi sur la traversée du Jura, à peu près dans tout. S'il y a bien un massif dans lequel on parle en multisport de traversée, on a tous entendu parler de la grande traversée du Jura en ski de fond, parce que c'est la terre de ski de fond par excellence en France, mais on l'a entendu en VTT, on l'a entendu en roller, on l'a entendu en ski roue, on l'a entendu en cheval, je l'ai déjà entendu. Enfin, on entend à peu près ça tout le temps. Ces grandes traversées du Jura, c'est tout ce truc un peu mythique qu'on entend partout, et d'avoir respecté ça, lui va sérieusement le limiter dans ses peurs. Et puis voilà, moi c'est surtout ça que je retiens. Donc la peur, c'est pas forcément un élément qu'il a besoin de mettre dans son aventure. Il en a déjà bien assez à essayer de comprendre, d'enchaîner. C'est ça qui va être plutôt compliqué pour lui, c'est de maintenir le cap tout au long d'une année. C'est pas un objectif. Là, c'est des objectifs qui reviennent très rapidement. Hein. Ça commence demain, ça commence dans 3 jours, et ça se termine au mois d'octobre. Quand tu vois le nombre d'efforts de mise en place, ça va très très vite, à peine un mois ou un mois et demi, et bing, ça revient. C'est une vraie, c'est un tour de force, et là, ça peut faire peur psychologiquement d'avoir ces enchaînements. Physiquement, ça, y a pas de souci, quoi.
C'est vrai que quand on voit la caisse qu'il a, le Thomas, je suis pas inquiet qu'il y a physiquement. Surtout la puissance dans les montées, ça m'a fatigué. Thomas, c'est quand même assez ouf ce que tu prépares. Je te le redis, je te l'ai déjà dit, je te le redis. Demain, dans 3 jours, tu prends ce premier départ. Là, pour le coup, les conditions météo sont un petit peu pas favorables. Comment est-ce que tu vas t'adapter à tout ça?
Eh ben, je vais m'adapter. je vais partir dans le haut. Je vais aller voir un peu. Alors, j'étais en contact avec plusieurs personnes. C'est un peu bizarre. Je prendrai la décision dimanche de savoir si je pars avec des skis ou pas. Ça sera vraiment le point clé. Après, je pense que à la base c'était raquettes et ski de rando nordique. Je vais rajouter une paire de baskets supplémentaires que je n'avais pas prévu de base, parce que pour pouvoir gagner du temps à certains endroits, parce que si c'est pour se trimballer des raquettes qui servent à rien, enfin voilà, ça va être l'adaptation. C'est ce qui est génial, et c'est ce qui me botte, c'est que va falloir s'adapter et s'adapter jusqu'au dernier moment. Donc c'est ce qui est hyper hyper motivant et hyper captivant dans ce truc là, c'est va falloir s'adapter. Là, comme je disais tout à l'heure, la réponse elle va être sur le chemin, et puis là ça va être juste un peu en amont. En soi, ça va pas changer grand chose. Je vais partir avec le même sac, je vais partir avec les mêmes habits, je vais partir tout pareil sur le reste. C'est juste, on va dire le moyen de locomotion qui va un petit peu changer, peut-être en dernière minute. J'en saurai plus ce soir, et voilà un petit peu le truc, quoi.
Moi, dans ton projet, on se connaît un petit peu. Je sais que le ski de fond, c'est quelque chose que tu as pratiqué un petit peu tout le temps, même si le ski roue, c'est quelque chose que tu connais un peu moins. Mais il y a quand même un élément qui comme enfin moi me fait halluciner, c'est le cheval. Tu savais que j'allais dire ça. Comment est-ce qu'on devient cavalier en moins d'un an, et comment est-ce que tu comptes te préparer à ça? Parce que pour le coup, Stéphane, là, physiquement, c'est quand même complètement différent, l'adaptation physique. Alors, Stéphane, tu vas parler physiquement, et Thomas, tu vas me parler techniquement. Je laisse commencer celui qui veut.
Physiquement, pour préparer une aventure qui sera la dernière en plus, le côté équestre sera la dernière des aventures, sera un peu la cerise sur le gâteau. il va partir tel un cow-boy avec les kilucs en arrière-plan avec la musique. Je sais pas comment ça va se passer son histoire. Je pense que l'apprentissage, encore une fois, il est inévitable qu'après la dernière aventure, on va repartir sur de la PPG pure et dure pour être à peu près sûr qu'il aura une technique qui sera plus qu'aléatoire et toutes les personnes qui font un peu de cheval vont expliquer que la technique est essentielle pour ne pas terminer juste totalement en compote au-dessus. Donc, comme je n'ai pas beaucoup d'outils et de connaissances dans le milieu, le seul côté que je peux me rassurer pour que lui puisse éventuellement pallier, même après quelques initiations, ne sera loin d'être le corps avec cette technique très précise qui permet peut-être d'enchaîner un certain nombre d'heures sur le cheval, ce sera préparation physique générale. C'est à peu près la meilleure des solutions que je puisse avoir parce que le soir, il va falloir s'arrêter, faire tout un tas de choses, etc. Il va falloir un corps multitâche, multifonction et pallier à ce déficit technique qu'il n'aura pas. Il peut bien faire tout ce qu'il veut, même s'il s'y mettait dès maintenant, ce serait compliqué d'avoir efficacement une technique qui lui permette de pouvoir ne pas terminer à moitié en compote. Donc, ce sera que préparation physique générale entre la dernière des épreuves, enfin l'avant-dernière et la dernière. Ouais.
Et Thomas, techniquement alors
ça va bien se passer. La technique et la tactique, c'est ça Non, la technique, ça va bien se passer. Non, plus concrètement... là, j'attendais de laisser passer la première traversée, de mobiliser vraiment à fond sur le lancement de l'aventure. Et après, on m'a conseillé un centre équestre vers Besançon qui a priori est bien. Je vais aller m'en rapprocher pour. Alors, je vais pas en faire mon sport de prédilection, c'est sûr, parce que je n'ai pas forcément le temps et puis j'ai pas non plus l'envie de faire que ça. Mais je vais aller prendre des cours et puis je vais aller monter pour apprendre un maximum. Et j'ai la chance sur cette traversée qui sera la seule où je serai accompagné du début à la fin. Et ça, je le précise toujours parce que c'était vraiment important pour moi par rapport à l'animal ou autre. Je serai accompagné d'Axel, donc qui est une amie qui est monitrice d'équitation, une ancienne monitrice d'équitation, qui élevait des chevaux d'endurance, donc qui connaît parfaitement ça. Et on va se prévoir quelques petites journées par-ci par-là pour apprivoiser l'animal quand même, pour le connaître un petit peu et surtout pour qu'elle me donne les bases pour ne pas trop subir. Mais je pense qu'il va falloir aussi que je trouve le bon matériel pour le postérieur et les cuisses, quoi.
Tu vois, on parlait de peur tout à l'heure et ça, ce serait le truc qui me ferait le plus flipper. Et Delphine, qui écoutera le podcast, j'en suis sûr, qui est la responsable sécurité sur le Grand Raid du Finistère, m'a convié, du coup, elle le sait que j'ai peur sur ces chevaux là. Tu sais, le truc qui part comme ça, elle a décidé de partir, tu sais pas pourquoi, je sais pas, un coup de fusil qui est juste donné, c'était pas prévu, et puis le truc qui part, tu peux plus rien faire, et puis voilà, moi ça me fait flipper, tu vois, quand t'es pas maître de tout. Autant sur des skis, bon bah c'est toi qui es maître un peu de la technique, mais sur le cheval, même si on fait toute confiance à Axel pour maîtriser ces animaux, moi, j'ai pas confiance en cette bête. Ça me ferait flipper. Voilà. Ton projet, là, je trouve que c'est ça le plus ouf. Faire 400 bandes sur un canasson.
550, s'il te plaît.
550, hein, toujours plus. Allez, tant qu'à faire. Hein. Tu me diras, rendu à 400, pourquoi pas 550. Hein. Bon, mais... est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dont on n'aurait pas parlé sur cet épisode qui était déjà très riche, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter pour le clôturer?
Je vais parler en premier, comme ça c'est Thomas, parce que c'est lui qui est mis à l'honneur et c'est son projet, donc moi je ne suis que celui qui le rend un peu plus autonome sur cette histoire-là, hein. Je suis pas là pour autre chose, donc je laisserai Thomas terminer. Moi je suis plutôt content que on en arrive actuellement en 2024, avec toute l'histoire que le trail connaît et toute l'avancée technique de niveau et l'évolution de ce sport, et que sur un podcast dédié principalement aussi au sport outdoor, mais principalement le trail, hein, c'est bien aussi que on commence tout doucement à mettre à l'honneur les projets off, parce que le projet off, par définition, n'est pas le projet de quelqu'un qui ne se sent pas capable d'aller rivaliser avec les autres, comme parfois on peut l'entendre, mais c'est surtout l'expression d'un véritable soi-même au travers d'un projet qui nous parle vraiment et qu'on n'est pas obligé de passer par un moment forcément codifié, etc., etc., et que toute cette construction de projet, comme est en train de le faire Thomas, et pas simplement d'aller consommer un produit comme une course, on arrive, on fait sa course, mais tout a été organisé par une équipe d'organisation, etc., etc. Et c'est presque ça que je trouve ça beau dans ces projets-là, c'est tout ce travail de préparation en amont, d'organisation, de ficelage, de donner du sens, enfin, d'habiller, etc., etc. Et après de réaliser en fait des moments personnels et puis de partage où il y a du vivre ensemble. Et voilà, c'est vraiment une belle histoire. Et François, que tu mettes ça en avant maintenant, je trouve que c'est une excellente idée parce que ça va donner plein de petites graines à tout le monde. Non de dire j'aimerais faire ça, mais je suis tout à fait capable par moi-même de réaliser des choses qui n'ont pas pour but de réaliser pour réaliser, mais qui auront pour but de mettre dans la matière un petit quelque chose à ce moment-là de ma vie. Et c'est comme ça aussi qu'on se construit sans forcément consommer tout un tas de choses qu'on pourrait nous donner et nous faire croire que c'est par là qu'il faut passer ou qu'il faut cocher pour être heureux dans la vie. Donc c'est une excellente initiative de ta part et pour Thomas, c'est une très bonne nouvelle que beaucoup d'athlètes maintenant, parce que faut quand même être un peu athlète pour faire tout ça, se mettent à vouloir réaliser des choses par soi-même et de les construire par soi-même en s'entourant de tout un tas de compétences. Ça c'est un vrai vivre ensemble et qui se concrétise par des projets avec un film, etc. C'est magnifique. Voilà.
C'est vrai que c'est un peu ton histoire, hein, Stéphane, de passer de top 10 à UTMB à finalement la réalisation d'aventures plus que de dossards.
Alors, le livre qui va sortir explique un petit peu tout ça. Et maintenant, je peux le dire, parce que comme il va bientôt sortir, ce sera une surprise pour personne. Mais l'épisode Try n'a été dans ma vie qu'un épisode qui avait un seul et unique but. Enfin, il y en a eu deux. Le premier, la fameuse grande cause noble qui venait de mon enfance, j'ai pas besoin de le répéter ici. Mais la deuxième, c'était aussi avoir une certaine crédibilité pour me permettre de valider une méthodologie. Mais depuis 1999 ou même un petit peu avant, hein, déjà même chez les scouts, j'avais bien compris que l'aventure personnelle et en off était beaucoup plus important pour moi que le dossard. Et par contre, quand en 1999, il y a un type qui s'appelle Mike Horn et qui a juste tué le game de l'aventure, plus personne n'a le droit de dire qu'il fait une aventure après un type qui traverse le monde en suivant le fil de l'équateur. Il a juste tué l'histoire de l'aventure. Il l'a fait un peu tôt, mais inévitablement, moi, c'est tout de suite vers ça que ça m'a attiré, parce que là, pour le coup, on pouvait faire dire comme on voulait, on pouvait modeler ça comme on voulait, sans être sous contrainte du monde extérieur. Et c'est quand même un fabuleux moyen d'expression, même si c'est pas toujours considéré comme ça. Mais oui, l'épisode Trail et Top 10 à l'UTMB, comme tu le dis, était inévitablement, moi c'était très orienté, parce qu'en passant par cette case là je validais toute une méthodologie que j'avais mis en place depuis 2009 et qu'après ça me permettait d'aller véritablement vers ce que j'ai toujours souhaité vraiment faire et être, qui est ce moyen d'expression qui s'appelle le sport outdoor. Donc moi c'est un vrai passage que, comme tu le dis, mais c'est maintenant une vraie réalisation. Donc t'imagines qu'accompagner des athlètes comme Thomas qui partent dans ce genre de projet, mais magnifique quoi.
Et c'est pour quand la sortie du bouquin ?
Alors, le bouquin sortira aux alentours de mai, voilà. Et je ne peux pas dire encore à cette heure-ci qui va éditer le bouquin, même si les athlètes de la team.bar sont un peu au courant, j'ai préféré les informer avant l'heure, mais ça se mettra en route, et la communication se mettra en route, on va dire, dans quelques mois, mars-avril, grand maximum, tout le monde saura... qui, quoi, comment édite ce livre et le mettra dans les bacs, mais courant mai ou un petit peu avant le mois de mai, normalement la sortie du livre de Stéphane Brognard devrait arriver dans l'univers.
Bon, et ben écoute, on en reparlera, j'imagine, sur le podcast ensemble quand ce sera sorti.
Voilà.
Avec grand plaisir, en tout cas, parce qu'en plus on me l'a demandé suite à nos premiers épisodes, on en avait déjà parlé, et il y a des gens qui m'ont dit mais où est-ce qu'on peut le trouver ? Voilà, ça vient. Thomas, du coup, à toi.
Et ben moi, voilà, merci. Eh ben, merci de m'aider aussi à faire vivre cette aventure. Alors, je vais commencer par remercier Steph qui a tout de suite répondu présent répondu présent à ça de par déjà sa méthodologie de travail, pardon, ce qui m'apporte, mais aussi tout l'aspect conseil qui peut m'apporter à côté sur l'organisation, sur voilà, ça a vraiment été un gros levier pour moi d'être accompagné par Steph et de commencer que cette aventure de début d'année là, accompagnée de la meilleure des façons. Et après, il y a toutes les personnes qui gravitent autour, voilà, qui viennent m'aider. On est en train de monter, je suis en train de monter une belle équipe autour de moi, aussi bien sur voilà, avec Mathieu sur la partie communication, avec Pierre-Antoine pour le film, les photos, voilà, les partenaires qui sont là pour m'aider aujourd'hui, parce que voilà, comme Vincent Defran avec Kayak qui me fournit tout l'habillement, voilà, c'est génial d'avoir mobilisé autour de ce projet des marques, une marque jurassienne engagée en plus, qui correspondent vraiment à mon état d'esprit, donc ça c'est vraiment top. Et puis pour en revenir à ce que disait Stéphane, lui il a fait du top 10 UTMB à l'aventure aujourd'hui, et moi j'ai jamais fait du top 10 UTMB, je le ferai jamais, c'est sûr et certain, mais j'étais un bon coureur
C'est juste parce
moyen.
que t'as pas envie, mais si t'avais envie, tu le ferais.
On va dire ça comme ça, pas du tout prétentieux le mec. Non, voilà, l'envie du dossard. Alors c'est sûr, il y a toujours des courses qui feront peut-être envie un jour, mais pour le moment je suis pas du tout là-dedans. Les seuls dossards que je vais prendre cette année, c'est sur une course de ski, parce que c'est chez moi, et puis voilà. Mais par contre, c'est vraiment cet aspect aventure et dépassement, et toute la partie, voilà, création, montage du projet, tout ce qui en découle, le film, en parler derrière en conférence ou autre, c'est vraiment, voilà, c'est monter ce projet, c'est vraiment un projet d'aventure, et c'est super, c'est super enrichissant au niveau personnel, et aussi bien que l'accomplissement sportif du truc. Donc je suis un baby aventurier, on va dire ça comme ça, et j'espère pouvoir continuer longtemps ça, mais en tous les cas, les prémices sont vraiment porteurs, et je m'éclate là-dedans, quoi.
En tout cas, moi, je vois ça un petit peu de l'intérieur avec tous nos échanges, et je trouve que tu as une grande énergie, une grande résilience, un sang-froid aussi. Des fois, quand on te dit non, tu te braques pas, tu te dis bon, c'est non aujourd'hui, mais ce sera peut-être pas non demain. Et ça, c'est vachement important de pas prendre les noms personnellement aussi, parce que si on te dit non, tu peux vite te baisser les bras, te décourager, et puis c'est pas un comportement que tu as. Bravo pour ça déjà. Et puis écoute, est-ce que tu peux aussi partager où est-ce qu'on peut suivre tes aventures et la réalisation qu'il y aura après, même si on en reparlera évidemment à la fin de tout ça. J'ai hâte de voir un petit peu le rendu de tout ce qui va se passer.
Vous pouvez tout suivre donc sur mes réseaux sociaux, Thomas Bio, rien de plus simple. Il y a tout le détail du projet sur mon site internet www.thomasbio.com. Après, vous retrouvez, voilà, vraiment tout sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez également écouter, j'ai créé un podcast, donc Rendre possible impossible, là, pour faire vivre l'aventure de l'intérieur. C'est des podcasts courts, entre 10 et 30 minutes, où je fais vivre un petit peu les ressentis au jour le jour ou autre, parce que je sais pas écrire, mais je sais un peu mieux parler. Donc du coup, c'était la façon originale de faire vivre le projet. Et après, il y a également, vous pouvez me contacter, m'envoyer des messages, je réponds à peu près à tout le monde s'il y a des questions ou autres, et c'est avec grand plaisir de communiquer. Et puis les deux, je vous attends quand même, peut-être sur un bout de traversée, s'il y en a qui veulent se joindre à moi, c'est avec grand plaisir. Les cartes sont jetées.
Je viendrai pour la partie cheval.
Moi aussi, moi je viens pour le cheval, moi.
Ah, chacun avec son chapeau de cow-boy et puis le brin de maïs dans la bouche.
Exactement.
Appelle-moi Lucky Luke et tout se passera bien.
C'est exactement ça.
Bon, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps d'échanger ici sur l'Instinct Outdoor. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir autour de vous, et puis n'hésitez pas à envoyer un petit message à Thomas, si vous avez envie de l'encourager, voire de le suivre sur l'une de ses aventures. Et puis, si jamais vous avez envie vous-même de préparer des aventures, n'hésitez pas aussi à en parler à Stéphane, et peut-être qu'il pourra vous aider, vous accompagner dans vos projets les plus fous. On se dit à très bientôt dans un prochain épisode. Merci Thomas, merci Stéphane, bye bye.
Bye bye. Bye.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.